9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce club de l'été, un club dans lequel on aime partager nos coups de cœur culturels, un club dans lequel on aime partir à la découverte de nos régions et un club dans lequel on aime aussi dénicher de nouvelles saveurs. Nous avons 2 heures pour parler de culture et de gastronomie, avec à mes côtés 2 curieuses et aussi 2 gourmandes, Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Mouns, experte gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Comment
bonjour
ça va aujourd'hui en ce 15 août, fidèle au poste?
Écoutez, on est ravis de travailler un jour férié.
Très calme.
Voilà, c'est très calme, très paisible et on est content de vous retrouver tous.
Sophie Massieu, vous nous emmenez dans le Berry aujourd'hui, ou plus exactement
au château de Valençay. Vous avez vu, j'ai même pas...
Oh, vous
j'ai
avez
même
lâché pas... l'information dès le début, ouais, ça me fait plaisir. Ça. D'habitude, je la travaille un petit peu au corps, mais ça marche pas toujours. Au château de Valençay,
voilà,
très bien.
Vous l'avez déjà dit à notre invité en off, alors j'ai plus de raison de faire attendre.
C'est vrai. Sophie Mouns, grâce à vous...
Vous avez cassé la baraque.
Mais non. Sophie Mouns, grâce à vous, on va découvrir une huile du pays Berrichon.
Oui, l'huile de noix berrichonne. 100% artisanal, par deux amoureux du terroir et puis de la confiture maison.
Mais oui.
Épisode 3.
Non, 4. Épisode 4. On est jeudi,
oh,
Sophie.
Mon Dieu, ça passe à une vitesse.
Cette
avec
série
vous.
Alors, estivale sur la confiture, c'est quand même un grand succès.
On va parler d'abricots et de pêche, mais attention, made in France.
Ah, mais évidemment. Nous aurons 2 heures, évidemment.
C'est une Belge qui l'a dit.
Mais oui, c'est ça. Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été et n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Notre invité est avocat. Pour lui, la parole est un sport de combat. Il est aussi à l'aise au barreau de Paris qu'en Seine-Saint-Denis. Portrait sonore.
Retenons un instant que l'éloquence, c'est simplement l'art de persuader. Et c'est une douceur et c'est aussi une violence faite à l'autre. Et il y a ce double aspect de l'éloquence, douceur et violence. Mais dans son double aspect, il est ce par quoi on conquiert, on retient, on possède l'autre. Dans l'ordre de l'esprit.
C'est la bombe, oh, ça vient de Sunny.
Mais non, ici c'est...
Sunny, Sunny, fond du flèche. Sunny, Sunny, fond du flèche. Dans l'arène, le suprême, la crème.
Ils descendent tous deux, l'âne se prélassant marche seul devant eux. Qui dame les rencontre et dit est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'accommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Pardon de vous le dire, mais... Non, pardon de vous le dire. Mais tous les poids lourds sont du passé, pardon de vous le dire. Hein. Pardon de vous le dire. Moi, pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire.
Bon, c'est comment dire, les gens ont très inégalement des choses à cacher, hein, aussi, ça. Mais bon... Et les gens qui vous disent ça, c'est vous n'enregistrez pas, etc. C'est quand même surtout les gens de pouvoir. Mais vous savez, si vous parlez avec un chômeur, un sous-prolétaire, etc., qu'est-ce qu'il a à cacher?
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend.
Bonjour Maître Bertrand Perrier, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous avez publié en juin un petit manuel pour Grand Oral, qui est destiné aux élèves de seconde, première et terminale, avec des cours et des exercices pour réussir la nouvelle épreuve du bac. C'est publié chez Magnard. À la rentrée, sort en poche votre livre La parole est un sport de combat. Et chez La thèse sur le bout de la langue, Le goût du mot juste sera un petit peu plus tard. Bertrand Perrier, on vous retrouve également à la rentrée sur l'antenne d'LCI, où vous officiez aussi cet été, vous prenez pas vraiment de vacances vous non plus. Le 12 octobre sur Netflix sort Banlieusard de Kerry James, qu'on écoute en ce moment, dans lequel vous jouez le rôle d'un avocat organisant et présidant un concours d'éloquence, tiens. Et nous aurons évidemment l'occasion de reparler de toute cette riche actualité tout au long de l'émission. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire tous les petits sons que vous avez entendus, reconnus dans ce portrait sonore?
Ah oui, alors c'était extraordinaire parce qu'il y a à peu près toute ma vie là-dedans. Je pense que je vais mourir bientôt
mais
parce
non,
que je vois
non,
ma
non.
vie défiler.
Mais surtout pas.
Donc, il y avait Marc Bonan au démarrage, qui est un avocat suisse, qui est mon maître absolu d'éloquence, qui est un orateur tout à fait exceptionnel et également un ami et quelqu'un qui a beaucoup changé ma vie et ma façon de parler. Il y avait Fabrice Lucchini, qui est aussi pour moi une idole indépassable
brillant.
Par son goût de la langue française et d'une transmission exigeante exigeante de textes que personne n'entendrait s'il ne les donnait pas à écouter. Il y avait Kerry James, donc vous avez rappelé que on a fait, j'ai un tout petit rôle dans un film qui sortira le 12 octobre sur Netflix. Et puis il y avait NTM. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la parole sous tous ses aspects, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment parler, c'est d'abord dire qui l'on est, on parle comme on est, et donc chacun s'exprime. D'ailleurs, on s'exprime, c'est-à-dire comme un fruit qui donnerait son jus. Et donc voilà, la parole, il y a autant de paroles que de personnalités, et c'est ça qui était très riche dans le très beau son que vous avez diffusé.
Alors, pour expliquer justement Seine-Saint-Denis Style de NTM, en clin d'œil à la Seine-Saint-Denis, puisque vous participez au programme de formation au concours d'art oratoire Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Il y avait un autre extrait, je ne sais pas si vous l'avez identifié, il y avait un tic de langage. On a entendu Emmanuel Macron qui prononce « pardon de vous le dire, pardon de vous le dire ». On a tous des tics de langage. Est-ce que vous en avez même vous, maître ?
Ah mais je lutte contre beaucoup de tics de langage. Je m'efforcerai dans cette émission de ne pas en faire trop, mais par exemple, il y a effectivement. Alors effectivement, c'est horrible parce que ça ne veut rien dire, et il est là, tapis dans l'ombre,
mais
et il vous
béquille.
Guette.
On a besoin de ces béquilles. Alors, ça permet de gagner.
Je crois que effectivement, je lui ai fait la peau. En revanche, il a été remplacé par du coup.
Mais alors, ça vient d'où ce du coup? Parce qu'on est tous victimes de ce syndrome. Hein.
Oui, mais c'est une façon de peupler l'espace quand on n'a rien à dire. Et qu'on ne supporte pas le silence, on met un du coup, on met un genre, on met un effectivement, qui sont des mots qui n'ont pas de sens par eux-mêmes, mais qui évitent le silence et qui peuplent l'espace sonore.
Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y en a plein des mots comme celui-là. Et pourtant, c'est du coup qu'on entend énormément ces derniers temps. Est-ce que c'est parce que les médias l'ont d'un seul coup plus utilisé ? Est-ce que vous avez l'impression pourquoi il se ressurgit plus ? Ou est-ce qu'on y prête plus attention aujourd'hui qu'avant ?
Alors, je ne sais pas pourquoi du coup est arrivé après, effectivement, mais il y en a de nouveaux. Hein. Il y a genre, par exemple, qui est terrible. Il y a en mode, qui est absolument terrible, comme si on était des programmes de machine à laver. On est en mode.
Donc, en ça, mode essorage.
Oui, c'est ça, en mode lavage. Et donc, c'est des petites béquilles qui, encore une fois, évitent de nous confronter au silence. La parole est aussi faite des silences, mais nous sommes dans une parole en courant continu.
Voilà, mais c'est un peu notre terreur aussi de nous, hommes et femmes de radio.
En radio, c'est
les silences radiophoniques, c'est pas possible.
En radio, c'est très simple. Au bout de, je crois, je sais pas, on arrêtez-moi en régie. Je crois qu'au bout d'un moment, s'il y a un silence trop long, on envoie un disque de secours parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien.
Et oui, que l'animateur est mort.
C'est
réalité.
Ça. Voilà, dans le pire des cas, on va pas nous le souhaiter. Et il y avait également un extrait du film de Pierre Carles sur Pierre Bourdieu, La sociologie est un sport de combat. Évidemment, en référence au titre de votre livre, La parole est un sport de combat, parce que en matière de parole, il n'y a pas de déterminisme social non plus.
Oui, c'était l'idée de ce titre, La parole est un sport de combat. Il y avait plusieurs explications, notamment le fait que la parole c'est aussi physique, et puis que ça suppose un entraînement comme un sport de combat. Mais il y avait évidemment un petit clin d'œil au titre du film de Pierre Carles sur Pierre Bourdieu, puisque Pierre Bourdieu est le grand théoricien de la reproduction sociale. Selon Pierre Bourdieu, on serait déterminé dès son plus jeune âge par son milieu, et que les fils d'ouvriers seraient ouvriers, et que les fils de hauts fonctionnaires seraient hauts fonctionnaires, et qu'il y aurait des sillons tout tracés, et notamment que contribuerait à cette organisation de la société la maîtrise de la langue. Et je m'efforce, en Seine-Saint-Denis avec d'autres, de dépasser ces déterminismes pour essayer, par la transmission des maîtrises des codes de la prise de parole en public, eh bien, de permettre à des jeunes gens d'échapper au destin qui leur serait promis.
Et puis il y avait Dalida, parole, pour mon plaisir personnel, et parce qu'il était question
aussi
de parole.
Ah, bon,
très bien, si je vous ai fait plaisir, ça me fait plaisir.
Bien sûr.
Avant de poursuivre notre discussion, Bertrand Perrier, je vous propose d'écouter Viens, Yannick Noah sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Gamin, écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici, tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang, des femmes nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini. tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment, faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes, ah tu peux rire maintenant. Petit, regarde cet étang, les familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, les hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur que ta sœur. Y'a pas que ton frère que ton frère.
C'était Yannick Noah sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. A tout de suite.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Lise Pressac.
Il est 9h22 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du club de l'été avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bertrand Perrier, on l'évoquait dans le portrait sonore, vous participez à Eloquentia. C'est un programme qui permet de désigner chaque année le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Programme qu'on a découvert dans l'excellent documentaire de Stéphane de Freitas, À voix haute, qui était sorti en 2016.
Cassier ! C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire.
La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait, je suis Charlie. Maintenant, à partir de ce soir, je dirais aussi, je suis Sonny.
Un documentaire qui suit pendant 6 semaines 30 jeunes de Seine-Saint-Denis qui préparent Eloquentia. C'est donc un concours d'éloquence organisé depuis 2013 à l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Ils sont coachés par des avocats, il y a un prof de slam, un coach vocal, un prof d'expression scénique. Et plus ils réussissent à s'approprier la langue, plus ils s'affirment. C'est vraiment le portrait d'une jeunesse du 9-3, comme on aime l'appeler, pleine de ressources, qui s'empare de la parole et du savoir comme d'une arme vraiment pour avancer dans la vie. C'est frais, c'est réjouissant. On en sort vraiment avec le sourire jusqu'aux oreilles. Allez vous le procurer. Je pense qu'il y a un moyen quand même de le voir encore sur les plateformes. C'est mieux que n'importe quel antidépresseur, Bertrand Perrier. Et voilà, je le dis sans flagornerie.
Oui, c'est d'autant que moi, je n'ai pas particulièrement de rôle. C'est vraiment un documentaire.
Oui.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on faisait avant, ce programme de formation et de concours. C'est quelque chose qu'on a fait après, dans l'anonymat le plus total, mais qui nous va très bien.
Et qu'est-ce que ça a changé depuis le succès du documentaire ? Est-ce qu'il y a plus de candidats ?
On a évidemment beaucoup plus de candidats. On est obligé de faire des petites sélections maintenant pour que... je ne prends pas plus de 30 personnes, parce que je prends déjà en demi-groupe. C'est quand même... Un art humain, la prise de parole en public, et donc il faut avoir une attention à chacun, et au-delà de 15, je ne sais pas le faire. Donc on est obligé de limiter un peu les effectifs, mais ce qui est formidable, c'est que ce succès du documentaire À voix haute a permis à Eloquentia d'essaimer partout sur le territoire. Il y en avait à Saint-Denis, qui est un peu le canal historique, et puis après il y a eu Nanterre, il y a eu Limoges, il y a eu Grenoble, il y a eu Marseille, maintenant il y en a à l'étranger, et puis ça essaime aussi vers le haut en termes d'âge, vers les lycées et les collèges, parce que là on avait des étudiants de l'université de Paris 8, mais ce qui est très important, c'est de commencer bien avant
oui.
la formation à la prise de parole en public, parce que c'est dès l'école, probablement même dès l'école primaire, que tout se joue. Et donc, on réussit avec la demande des enseignants qui a été suscitée aussi par le succès de ce film, à venir maintenant dans les collèges et les lycées.
Et vous le dites justement dans ce livre, La parole est un sport de combat, c'est avant même qu'on arrive à cet âge assez ingrat de l'adolescence, où en plus on est amené souvent à prendre la parole, qu'il faut en fait, s'en préoccuper d'apprendre aux enfants à l'art oratoire. Je ne sais pas si on dit l'art oratoire, c'est un art.
Moi, j'aime bien dire prise de parole en public, parce que dans l'art oratoire, quelque chose d'un peu élitiste.
Et qui fait un peu peur, peut-être.
Oui, qui fait un peu peur, qui inhibe en réalité, oui. et qui dirait que c'est un art comme le serait le piano, par exemple, quelque chose où il faudrait un don.
Oui.
Alors qu'en réalité, prise de parole en public, c'est quelque chose de très matériel et que tout le monde peut faire, avec un peu de travail, bien sûr. Et puis, il y a aussi une part de don. Il y a des gens qui iront plus vite.
Il y a aussi des gens qui partent pas avec les mêmes bases que, bien
sûr,
les autres.
Mais prendre la parole en public me paraît un fait plus matériel, donc je préfère dire prise de parole en public. Et effectivement, je crois que la France a complètement oublié cette dimension de l'enseignement. On reviendra peut-être à l'épreuve du baccalauréat qui restaure l'oralité dans l'enseignement. Mais les Américains, les Anglo-Saxons d'une façon générale, avaient, eux, une part d'oralité bien plus importante. Et nous, on est très inhibés, on n'aime pas trop ce qui est spontané, ce qui est l'expression de soi. Et donc, on n'a pas ça. Et je suis vraiment convaincu qu'en effet, c'est dès l'école où c'est très spontané, où c'est très festif, c'est très joyeux, il n'y a pas de jugement de l'autre, on est dans un espace assez bienveillant, alors que quand on est à l'adolescence, les adolescents ont une cruauté les uns avec les autres qui peut susciter des timidités et des vraies angoisses de prise de parole.
Sophie Mounce ?
Moi, je suis assez étonnée quand on écoute cette jeunesse aujourd'hui, ils ont leur propre code de langage, leurs expressions qu'on ne comprend d'ailleurs pas. Est-ce que c'est un frein justement à l'acquisition de cet art oratoire, on va l'appeler comme ça ?
Non, je ne crois pas. En réalité, bien sûr, il y a un langage de la jeunesse, mais ça, d'abord, ça enrichit la langue, qui n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un objet de vitrine, la langue française. Et donc, elle évolue et la jeunesse contribue à son évolution. En revanche, je dis tout de suite que dans l'enseignement que je donne en Seine-Saint-Denis, je suis intraitable sur la qualité de la langue. Je ne me dis pas que parce que ce sont des jeunes de Seine-Saint-Denis, je peux leur passer un accord un peu approximatif ou une conjugaison aléatoire. Non, je crois que c'est un hommage à leur rendre que de leur dire qu'ils doivent respecter les règles de la langue française et que même s'il y a un côté tchatch, effectivement, on le voit dans le film avec le prof de slam, qui est d'une exigence absolue sur la question de la prononciation et qui va aller chercher chez un jeune qui a écrit un slam mais qui n'est pas capable de le prononcer correctement, il va aller le chercher jusqu'à ce qu'il ait la prononciation qu'il souhaite obtenir.
Oui, c'est très important. Et vous le disiez par rapport à l'enseignement, ce qui est terrible, je pense notamment à l'enseignement des langues, j'en suis le premier exemple. J'ai fait 10 ans d'allemand, je suis incapable d'aligner une phrase, j'étais capable d'écrire une rédaction. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'on est aussi mauvais dans la transmission de l'oralité ?
C'est un choix. En réalité, au début du XXe siècle, on a fait le choix de bannir. Avant, la classe de première s'appelait la classe de rhétorique. C'est bien que l'enseignement des grands discours, notamment de l'Antiquité, était quelque chose d'important. Et puis, on a considéré que tout ça sentait un peu le soufre et qu'il fallait mieux étudier les textes et qu'il fallait mieux faire des dissertations parce que ça, c'était quand même plus sérieux que le côté un peu exposition de soi, de ses sentiments, le romantisme, tout ça. Et on était dans une période de positivisme, de rationalisme et on préférait écrire plutôt que de parler. Et donc, depuis lors, la parole est marquée du sceau de quelque chose d'un peu sulfureux qui ne serait pas très sérieux. En réalité, c'est extrêmement sérieux. Il y a des règles de la rhétorique, de l'éloquence, que j'explique dans le livre, mais que tout le monde peut trouver sur la structuration d'un discours, d'une argumentation. Et donc tout ça est extrêmement sérieux. Donc je me réjouis qu'enfin, on ait une véritable épreuve orale au baccalauréat. Parce que d'abord, avant, on passait le baccalauréat quand on était au rattrapage.
C'est ça,
ce qui montrait bien la considération
qu'on
a fait pour l'oral,
ouais.
Qui était une sorte de session pour ceux qui avaient entre 8 et 10 et qui espéraient quand même avoir le baccalauréat. Et puis, les épreuves qu'on avait étaient objectivement pas très engageantes, parce que c'était des épreuves de récitation de cours. Et donc, en réalité, ça n'était rien d'autre qu'une oralisation de l'écrit. C'est comme si on aurait lu une copie, ça n'aurait pas fait autre chose que l'épreuve orale du baccalauréat. Or là, on pourra avoir, avec cette nouvelle épreuve, quelque chose qui sera enfin une vraie oralité, avec une composante d'improvisation et surtout de conviction, parce que c'est ça l'oralité, c'est de faire partager ses idées sur un sujet qu'on a choisi, sur un thème qui vous intéresse, parce que c'est une matière qui vous intéresse, parce que ça a trait à votre avenir professionnel. Et donc ça, c'est formidable parce qu'on a enfin une vraie épreuve orale.
On va continuer de parler de tout ça, Bertrand Perrier. Vous allez partager aussi vos coups de cœur avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. Maître, quand on vous a... J'aime bien dire maître.
Mais si vous voulez, c'est très même classe. Un 15 août.
C'est très classe.
Quand on vous a demandé quels étaient vos coups de cœur culturels, vous nous avez parlé notamment du spectacle Croque la pomme de Caroline Vigneault.
1934, ça y est, les filles, on obtient le droit de voter en Turquie. Oui, les femmes turques ont le droit de vote avant nous. Ça fait quand même un petit peu mal au fion, ça, non? Nous, c'est 10 ans plus tard, 1944. Et attends, il va falloir attendre encore un an pour avoir le droit de l'exercer, 1945. Ma grand-mère a obtenu le droit de voter. Bon, elle, elle a jamais voté. Ah non, mon grand-père voulait pas. Mais aujourd'hui, les femmes votent. Aujourd'hui, les filles, on a le pouvoir de choisir celui ou celui qui nous représentera.
Bertrand Perrier, pourquoi vous aimez cette humoriste ? Est-ce que c'est parce que c'était une avocate comme vous et qu'elle a changé de carrière il y a 10 ans pour devenir humoriste ?
Alors Caroline et moi, on s'est connus au Barreau il y a 15 ans. Donc on était très copains, on a passé ensemble les concours d'éloquence du Barreau, parce qu'il y a dans la tradition oratoire du Barreau de Paris des concours d'éloquence. Et donc ça permet à des jeunes avocats d'avoir un début de carrière un peu plus facile si on est lauréat d'un concours d'éloquence. Et donc Caroline et moi avons passé ensemble en 2002, ça ne nous rajeunit vraiment pas, un concours d'éloquence du Barreau. Elle avait déjà énormément de talent. Et puis après, j'ai suivi son parcours, évidemment, même Quitte la robe, puisque c'était le titre de son premier spectacle. Oui. Et puis maintenant, Croque la pomme. Et donc, on est restés très, très liés. On a fait ensemble le grand oral sur France 2 la saison dernière, un concours d'éloquence télévisée. On se suit l'un l'autre. Et donc, j'ai évidemment vu son nouveau spectacle, Croque la pomme, que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est pas seulement un spectacle comique. En réalité, c'est un spectacle comique, bien sûr. On l'a entendu, c'est vraiment très drôle. Mais c'est aussi un spectacle un peu pédagogique. Elle parle du métier d'avocat.
Et on l'a entendu aussi, d'ailleurs.
Elle parle de la robe des avocats, elle décrit tout ça. Et puis, c'est un peu un spectacle militant aussi. C'est un spectacle objectivement féministe. Et je suis très attaché aussi à ce que les femmes puissent prendre la parole. C'est très important parce qu'on a l'impression que la parole est un précaré masculin, est une affaire de testostérone et de cigares cubains. Et ça n'est pas vrai.
Bah non, vous voyez, on est trois et on la prend tous les jours, la parole ici sur cette antenne.
Mais je suis ravi d'être en
minorité, mesdames. On pourrait vous voir sur scène, maître Bertrand Perrier, puisque c'est de plus en plus courant. Éric Dupond-Moretti vient de le faire. Et pourquoi pas vous ?
Parce que j'ai la trouille.
Mais non.
Voilà.
Pour l'instant.
Autre
pour
question.
L'instant. Non, mais ça veut dire qu'un tribunal, c'est un théâtre comme un autre. Si c'est aussi facile de. Alors, ça n'a pas dû être forcément facile pour Caroline Vigneault, mais de se dire en tout cas que tout ce que vous avez appris en étant avocat, ça peut aussi servir en étant seul en scène.
Oui, c'est pas totalement un théâtre, le tribunal. D'abord, c'est le théâtre de la vie réelle. Hein. On a quelque chose qui a un impact sur la vie des gens, c'est la vraie vie. Alors que le théâtre, c'est évidemment une vie fictive. Et puis, au théâtre, même si Éric Dupond-Moretti, évidemment, et Caroline Vigneault sont dans le one-man show, donc ils disent leur propre texte. Traditionnellement, au théâtre, on dit le texte d'un autre.
Exactement,
alors
ouais.
qu'au tribunal, on dit... Et puis, il y a dans les stand-up aussi quelque chose de préparé. Alors qu'au tribunal, il peut tellement se passer tout et n'importe quoi au cours de l'audience qu'il faut s'adapter dans l'instant à ce qui vient de se passer, à une déclaration tonitruante, à un témoignage inattendu. Et donc, c'est quand même totalement différent comme art, l'audience, avec sa spontanéité et son improvisation. Et puis, le théâtre qui obéit évidemment à des règles.
Vous savez, sur scène aussi, on peut avoir un public plus ou moins réceptif. On peut avoir quelqu'un qui rit très fort et qui vous perturbe. Enfin, l'auditoire peut aussi jouer quand
vous allez sur scène.
J'ai rarement été aux prises avec un président qui aurait ri très fort.
Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir aussi des choses comme ça. Votre deuxième coup de cœur, Bertrand Perrier, m'a permis de découvrir qu'il existait aussi des concours d'éloquence dans l'armée.
J'ai une confidence à vous faire. Je suis breton. Bon, à partir de là, vous avez deux images qui se dessinent. Vous vous dites breton, le pêcheur au bonnet rouge, une espèce d'Ernest Hemingway en ciré, ou alors non. Vous savez, le fumeur de ganja altermondialiste qui joue du biniou dans les fesses-noses. Je n'appartiens à aucune de ces deux catégories.
Alors je confirme, l'élève officier Olivier, puisque c'est lui qui parle, n'a pas du tout un look d'altermondialiste ou de joueur de biniou. Il porte la tenue militaire rouge et bleu des étudiants de Saint-Cyr avec la veste à boutons dorés et les épaulettes. Bertrand Perrier, vous aimez tellement les concours d'éloquence que vous en regardez pendant votre temps libre ?
Ah non, celui-là j'étais jury, c'est pour
d'accord.
ça que je vous en ai parlé. Non, je ne suis pas à ce point-là.
Vous n'êtes pas à ce point-là.
Mais effectivement, la ministre des Armées, Florence Parly, a créé un concours d'éloquence, ce qui est paradoxal pour la grande muette qui est traditionnellement l'armée. Et elle a voulu un concours d'éloquence avec à la fois des élèves des écoles militaires, donc Saint-Cyr, Naval, Polytechnique, et puis des élèves d'écoles civiles, notamment Sciences Po ou HEC, et qui, chaque année, donc il y a eu la deuxième édition sous la présidence de Madame Brigitte Macron, qui est donc présidé le jury dont vous avez passé un petit son. Et c'est assez frappant de voir que d'abord c'est des élèves militaires qui ont gagné les deux premières éditions, qui ont donc été plus éloquents que des élèves civils.
Comme quoi
et qu'ils ont à l'égard de leur hiérarchie et de l'institution militaire une liberté de parole extraordinaire. On pense qu'ils sont tous le doigt sur la couture du pantalon. En fait, pas du tout. Ils sont très impertinents et donc très pertinents.
Alors puisque vous avez l'air d'aimer ça, Bertrand Perrier, je vous propose d'aller au théâtre pour voir la pièce Dernier tour de piste avec Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont. C'est l'histoire de Joshua, c'est un jeune homme qu'on envoie faire ses travaux d'intérêt général dans une maison de retraite qui a cette particularité d'accueillir des pensionnaires qui sont tous d'anciens comédiens. Alors parmi eux, il y a Julien Dorval, la grande gueule, interprété par Jean-Marie Bigard. Il y a son meilleur ami, le doux et gentil Daniel, interprété par Patrice Laffont. Bonjour Patrice Laffont.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 15 août. Avant de vous donner
Vous me prenez au réveil.
Ah bah écoutez, c'est un bonheur. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter un extrait de la pièce.
Daniel, votre copain, là, il veut que je fracture le bureau de trappe avec mon tournevis.
C'est absolument ridicule.
Ah, il y a un double. Quoi? Et enfin, t'as vu? Elle est beaucoup trop vieille.
Mais c'est pas un crime. On a tous le même âge à peu près ici.
Mais pas du tout. Daniel, cette bonne femme, elle a au moins 2000 ans. Je suis sûr que si on fouille un peu dans sa chambre, on va trouver une Bible dédicacée.
Alors, on l'a entendu, Bertrand Perrier est mort de rire dans le studio. On l'a entendu, il y a le truculent Julien, donc incarné par Jean-Marie Bigard. Et puis vous, Daniel, vous êtes le posé de la bande, quoi. Le sage.
Ouais, je suis le timide. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut préciser, c'est que je suis homosexuel, un vieil homosexuel. Oui. Et que je suis très ému par l'arrivée de ce jeune dans la maison de retraite, donc ça change un peu mon comportement.
Oui, voilà, vous êtes un petit peu ému de sa venue au jeune Joshua.
Émoustillé, disons émoustillé.
Oui, voilà, n'ayons pas peur de ce mot, Patrice Laffont, j'osais pas le dire. Et c'est une comédie qui aborde quand même des sujets justement pas très drôles. Vous parliez, il y a l'homosexualité, il y fait allusion dans le sens où ben, vous êtes un comédien qui est né 40 ans trop tôt pour pouvoir avoir le droit de se marier. Il y a la vieillesse, il y a cette solitude aussi, puisque voilà, vous attendez la visite d'une nièce qui tarde à venir, et tout ça arrive quand même à nous tirer les larmes de rire et aussi d'émotion parfois.
Absolument. En plus, Jean-Marie dit des choses assez belles sur la perte de notoriété, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important, sur la mort, sur la maladie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, des publics qu'on a rencontrés pendant qu'on a fait une grosse tournée, qui nous ont dit souvent, enfin, on parle un peu de nos problèmes. Et ça a l'air de les toucher, mais comme vous l'avez vu, sur un mode plutôt léger, quoi. On ne tombe pas dans le...
On ne tombe pas dans le pathos.
Voilà, exactement.
Il y a un truc assez incroyable, Patrice Laffont, c'est le bonheur que vous avez tous à jouer ensemble, non pas seulement tous les deux avec Jean-Marie Bigard, mais avec tous les autres comédiens. Alors, je suis venue vous voir samedi, et il y a eu notamment un moment assez culte où votre texte vous échappe face à Guillaume Mélanie, qui incarne le directeur de la maison de retraite. Vous êtes retourné vers nous en disant « Bon, ça va, on peut aussi oublier son texte ». Et moi, en fait, j'ai pris autant de plaisir à voir cette pièce qu'à vous voir jouer cette pièce.
Ben, c'est très très gentil, mais c'est à peu près la réaction qu'on a en général. C'est une pièce qui a fait un carton en tournée. On est étonné de voir qu'à Paris, en plein été, on a autant de monde.
C'était
quand même,
plein.
Même si on
remplit
pas complètement plein, parce que la salle est très grande.
Mais vous avez une standing ovation samedi.
Voilà. Il faut dire que Jean-Marie, qui est très fort là-dedans, il se débrouille bien pour qu'il y ait 2-3 personnes qui se lèvent. Après, le plus gros du travail est fait. Voilà, non, mais c'est une très jolie pièce que je ne voulais pas faire au début. Et c'est vrai ce que Jean-Marie a dit, c'est un peu parce qu'on est très copains depuis très longtemps, que j'ai su que c'était lui, je me suis dit « allez, on fonce, on y va ». Et je ne regrette pas, parce que ça permet de jouer un personnage très différent de ce que je fais d'habitude, où je suis un peu un héros. Quoi.
C'est vrai.
Là, je suis le anti-héros par excellence.
Ouais,
et moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas facile de jouer avec Jean-Marie, parce qu'il prend tellement de place.
C'est vrai, j'allais vous dire.
J'ai essayé de le faire, disons, je ne sais pas, un critique, hein, plus sobrement... Voilà, je crois que je suis parvenu à trouver ma place dans cette équipe et j'en suis très content.
Oui, je vous le confirme, mais j'ai l'impression que si vous deviez aller en maison de retraite avec des comédiens, vous prendriez à peu près cette troupe-là. Hein.
Ouais, peut-être.
Vous
ou
en rajouteriez
en moins,
à lesquels?
Non, je ne dirai pas lesquels.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est drôle, c'est émouvant. Je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est à l'Alhambra à Paris jusqu'au 12 octobre. Alors, c'est à 17h les samedis et dimanches jusqu'à ce dimanche. Ensuite, à partir du 24 août, ce sera à 20h30 le samedi. Et toujours à 17h le dimanche. Dernier tour de piste, c'est donc avec vous, Patrice Laffont. Il faut saluer aussi donc Jean-Marie Bigard, Mike Fédé, Jocelyne Sand, Guillaume Mélanie, Marie-Aline Thomasin, qui sont extraordinaires aussi, Béatrice Constantini. Ouais. Merci encore, Patrice Laffont, d'avoir été avec nous. Bertrand Perrier, je sais que c'est une de vos idoles, Patrice Laffont. Vous me...
Oui, je suis infiniment heureux de vous parler. D'abord parce que mon éditrice est Isabelle Laffont,
oui.
Qui ne vous est pas complètement inconnue. Et puis par ailleurs, parce que par votre intermédiaire, j'ai fantasmé jeune homme sur Pépita de Pyramide. Je me suis beaucoup rêvé Mironton ou Barjabul.
Oui.
Et donc, je ne sais pas si la pièce est complète, mais si vous trouvez deux places pour demain soir, je les prends.
Ben ouais, allez, c'est sans problème.
C'est samedi ou dimanche, ah non, mais, Bertrand Perrier.
Alors, sans problème, si on ne joue pas ce samedi-là, mais le problème, le 24 ou 25, sans problème. Hein.
Et ben voilà.
Avec grand plaisir, ben,
vous,
merci
vous
beaucoup.
Vous aurez Bertrand Perrier ben, dans
écoutez,
la salle.
Écoutez, donnez-lui mon numéro de téléphone et qu'il m'appelle.
On va faire ça, on va vous mettre en
relation.
Non,
mais sans blague, sans blague.
Ah ben non, mais je ne blague pas, sans Patrice Lafont, moi je ne blague jamais. Je suis ravie de vous avoir entendu au réveil ce matin, Patrice Lafont.
Mais c'est faux, surtout, Patrice
Mais oui, c'est faux.
Je vous embrasse.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Je peux rentrer dedans ?
Oh bah non, tout de suite, non.
Je vais rentrer dedans, non ?
Ah non, 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 non.
Je suis très frustrée.
Calme-toi.
Lise Pressac.
2 heures de direct okay. tous
mais
les
vous
matins.
Tout ça,
de
derrière,
j'assume tout. Oui, ouais. Oui. 2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. C'est le principe du club de l'été sur Europe 1 et ce matin c'est l'avocat Bertrand Perrier qui nous accompagne. Vous avez vu, on aime aussi un peu rigoler ici. On me fait des blagues le matin. Quand on vous a demandé, en tout cas à vous, quelle était votre série préférée, vous nous avez répondu ça. Générique des Mystères de l'Ouest qui a été diffusé à la fin des années 60 et début des années 70 en France. Est-ce que vous pouvez
mais
nous
je l'ai pas vu à cette époque-là, soyons très clairs.
Je le précise, vous êtes né après. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent ?
Ah bah, il y a pas d'histoire. C'est évidemment chaque épisode a une histoire. Il y a une centaine d'épisodes, donc ça tourne autour de deux personnages. Oui. Donc dans l'Ouest américain, qui sont James West et Artemus Gordon, qui sont deux agents secrets ou espions, on ne sait pas trop, et qui vivent dans un train comme ça et qui parcourt l'Ouest à force de western. Et donc à chaque fois il y a une énigme à résoudre et c'était assez extraordinaire parce que leur duo est très, très truculent et notamment le petit Artemus Gordon qui a toujours des trouvailles incroyables, qui invente des machines du diable et qui permet comme ça de résoudre des mystères de l'Ouest. Et chaque épisode s'appelle La nuit de quelque chose, donc c'est aussi quelque chose d'assez nocturne. Et puis évidemment il y a là-dedans, ça se termine toujours dans les bras de très jolies jeunes filles.
Oui, enfin, ce qui ne gâche rien.
Ah, c'est voilà. Ça qui vous a séduit en fait.
Non, pas spécialement. Mais voilà, à la fin, il y avait toujours une fête avec des femmes très, très séduisantes qui, évidemment, dans les bras desquelles tombaient James West, donc Robert Conrad et puis Artemus Gordon.
Bon, alors on l'aura compris, vous n'êtes pas très fan des séries plus contemporaines, il y a quand même vous m'avez dit Engrenage quand même.
Oui,
c'est quand même une belle
référence. C'est lié à mon métier. Oui. Engrenage qui est donc une série proprement judiciaire et qui a un intérêt. D'abord, c'est une série française.
Et qui est très bien faite.
Et qui est très bien faite et qui est d'autant mieux faite qu'elle a un conseil juridique qui est un confrère. Parce qu'en général, dans les séries, il y a des incohérences juridiques absolues.
C'est invraisemblable.
Notamment dans les séries américaines qui ont été transposées en France. Hein, je le dis, on ne dit pas votre honneur à un juge en France. on ne dit pas objection non plus. On ne demande pas un mandat pour une perquisition, donc tout ça c'est très drôle parce qu'on a ça dans les juridictions françaises où des prévenus disent votre honneur à un juge qui écarquille les yeux en disant mais pourquoi tout ça, je suis juste monsieur le président. donc il y a dans Engrenage une consoeur qui s'appelle Clarisse Serre qui est une très 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 bonne consoeur qui sert d'œil technique et professionnel pour qu'il n'y ait pas d'erreur juridique dans cette série qui est par ailleurs une très bonne série.
C'est vrai, et de mon côté moi je voulais vous conseiller une web série sur YouTube. Je ne sais pas si vous flânez sur YouTube ou si vous y perdez comme un peu nous tous.
Oh, tout le monde.
Voilà, il y a une web série qui est produite par France Télévisions, visible sur France TV/, la plateforme web de France Télé, ou bien donc sur YouTube directement. La réalisatrice Olivia Barlier a suivi pendant de longues semaines des jeunes femmes qui débutent dans la profession. Dans cet extrait, on entend Déborah qui a encaissé le verdict de son premier procès d'assises. Et elle retrouve son client un mois après avoir appris qu'il avait fait appel dans son dos.
Je vous le dis, je vous le signe, vous ne prendrez pas moins de 13. Vous prendrez minimum 15 si on va en appel. C'est ça qui me fait peur, vous comprenez ou pas? J'ai l'impression que c'est que
Léa... Je m'en compte, j'y vais quand même. Vous savez, j'ai perdu ma fille. Je m'en compte, j'ai perdu ma fille. J'ai besoin de voir.
Je crois que j'ai enfin compris que je peux pas le sauver, je peux pas le sauver de lui-même. Il y a des choses que je peux pas faire. Je veux dire, il est comme il est, mais finalement cette confiance, il me l'a donnée. Et j'arriverai pas à me dire que je suis pas allée au bout des choses en fait.
Alors on suit Déborah, mais aussi Eugénie et Noémie. Elles partagent leur passion pour ce métier, mais aussi leurs doutes, on l'aura compris. C'est vraiment passionnant et c'est très bien fait entre des séquences d'immersion et des confessions en voix off, comme on l'a entendu. Les deux saisons de 8 épisodes chacune sont à voir sur France TV/ ou sur YouTube. Ce sont des épisodes de 11 minutes, donc ça se regarde très facilement et on est vraiment pris dans cette web-série. Est-ce que vous la connaissiez?
Oui, absolument. C'est très bien et effectivement, c'est vraiment le début. C'est la vraie vie des avocats. Parfois, on a une vie fantasmée des avocats qui seraient toujours des vedettes, qui seraient des stars d'acquittement, etc. Là, on est vraiment dans les doutes professionnels, dans les affres des relations avocat-client. On le voit dans l'extrait que vous avez passé. C'est très sincère, c'est très juste.
Et on les voit craquer aussi.
Mais
parce
bien
que
sûr, mais c'est un métier horriblement difficile quand on le fait au pénal, où il y a une répression qui s'abat, qui est juste hein, parfois, mais qui est toujours dure. Il y a une richesse humaine dans ce métier, qui est la relation avec le client, qui est difficile, qui joue sa liberté. Ce n'est pas des questions d'argent, c'est des questions de liberté. C'est vraiment l'avenir qui est en jeu. Et c'est très riche. Il y avait eu Délit flagrant, et puis il y avait eu Dixième chambre de Raymond Depardon, qui montrait ça par le passé. Mais là, c'est une très belle actualisation. Et les trois jeunes consoeurs qui sont dans cette web-série sont très justes.
Et est-ce que vous vous souvenez de votre première affaire, Bertrand Perrier?
Ouais. C'est pas glorieux.
On ne peut pas oublier.
Non, c'est inoubliable. Parce que quand j'ai commencé le métier d'avocat, je n'avais pas du tout pensé que j'allais faire du pénal. Je faisais du droit bancaire, du droit des affaires, c'est-à-dire quelque chose de... Il y a deux sortes de trucs.
Oui, il y a moins d'humains,
le droit de l'argent et puis il y a le droit des gens. Et on passe parfois de l'un à l'autre. Et quand j'ai passé justement ce concours d'éloquence avec Caroline Vigneault, en fait, la récompense, c'est qu'on avait des dossiers de pénal. Et donc, moi, j'ai découvert ça. Ce n'était pas du tout mon idée à la base. Et j'ai découvert la prison, j'ai découvert les comparutions immédiates, j'ai découvert une justice qui broie, une justice qui est parfois inhumaine, parfois formidable, hein, mais une justice de masse où on peut prendre 10 ou 12 mois de prison en 20 minutes.
Et, expéditif.
Et,
hein.
Assez, oui, d'une sorte de routine. Et ça me choquait vraiment beaucoup. Je ne dis pas qu'il y a des juges exceptionnels, hein, plein, et j'en ai rencontré et je rends hommage. C'est une profession qui est pour moi extraordinaire. Je n'aurais jamais voulu la faire parce que je n'aurais jamais su être juge. Juger les autres, c'est extraordinaire. Il faut se débarrasser de toute passion, être complètement neutre, vraiment on dit les plateaux de la balance, mais moi j'aurais été incapable de m'extraire de tous mes a priori, donc j'étais incapable d'être juge. Il y a des juges formidables, et puis il y a des juges qui ne résistent pas à ces a priori aussi. J'ai connu les uns et les autres, et c'est vrai qu'il faut, je le dis aux auditeurs, aller dans les palais de justice. Il n'y a personne dans les salles d'audience, et l'entrée est libre, et pour vous la sortie aussi, ce qui est quand même un avantage sur certains prévenus. Et donc allez-y, allez voir, la justice elle est rendue au nom du peuple français, sur tous les jugements, en tête, il est marqué au nom du peuple français. Et souvent, les gens ne vont pas voir. Et ben, c'est tous les jours que Dieu fait à 13h30 dans les palais de justice. Vous verrez des comparutions immédiates, c'est-à-dire des gens qui sortent de garde à vue et qui sont immédiatement jugés. Et allez le voir en tant que citoyen et en tant que justiciable.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le rappeler, Bertrand Perrier. Dans un instant, on va continuer notre conversation et Elsa Lévy va nous rejoindre dans ce studio pour une revue de presse féminine décalée. Et on la retrouve juste après. Eya, c'est Outkast sur Europe 1. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so.
Why are we so in denial when we know we're not happy? don't wanna hear me, you just wanna dance.
Dans un instant, Elsa Lévy partagera avec nous le meilleur de la presse féminine. A tout de suite.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Pourquoi c'était trop. C'était quoi? C'était.
Non, en vérité, je peux le passer.
Ah oui, donc on va lui.
Hein? Cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise.
Lise Pressac.
Ils sont vaches, Bertrand Perrier, de me passer un extrait comme ça face à vous.
Un petit cours d'éloquence.
Oui, mais tout le monde savonne. Jusqu'à je l'ai fait depuis le début de l'émission. Il faut être très zen avec ça.
Jusqu'à maintenant, j'articule correctement. Tout va bien?
Oui, bien
bon,
sûr.
Bon, ça va. Bon, il est 9h53 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. Je vous présente Elsa Lévy. Elle a la difficile mission de lire pour nous la presse féminine.
Exactement, difficile, oui. Alors Bertrand Perrier, vous êtes spécialiste de la prise de parole en public. Et donc, d'après ce que je comprends, une des clés pour être un bon orateur, c'est quand même la confiance en soi.
C'est essentiel.
Essentiel.
Alors, l'image de soi aussi.
L'image de soi, eh bien ça tombe très bien,
ah oui,
vraiment.
Dans le et on ne s'est pas concerté.
C'est ah non, beau.
Vraiment. Donc ça tombe très bien parce qu'en ce moment, dans la presse féminine, on a plein d'articles à ce sujet. Dans Féminin Bio, par exemple, on a l'article « Un été pour avoir confiance et gagner en estime de soi ». Sinon, dans Biba, on a « La force est en moi ». Dans Cosmopolitan, « Comment avoir confiance en soi ».
Eh bien, c'est bien l'été, tout ça.
Oui, c'est bien l'été, mais je ne vous les lise pas tous, justement, parce qu'il n'y a pas une revue qui n'a pas au moins un article là-dessus. Alors, c'est une très bonne initiative de vouloir nous aider.
Oui.
Nous, les femmes, oui, à avoir confiance en nous. Sauf que, du coup, je n'explique pas comment c'est possible qu'après chaque lecture de magazine, je n'ai quasiment plus confiance en moi. Et pire encore...
Je ne me sens pas belle.
Oui, c'est pas pour ça.
Je ne me sens pas belle.
On croit que c'est tout notre problème. Qu'est-ce que vous nous conseillez, alors, Elsa?
Ah, bah alors, pour se sentir vraiment moche, je propose dans Madame Figaro l'article « Joue-la comme Ursula Andress ».
Ah,
alors,
oui,
sexe symbole des années 60.
Du nom.
Exactement, années 60, mais la référence date un peu. Mais ça opère quand même sur les complexes, puisque c'est une bombe en maillot échancré qui pose cambrée, l'air hyper sexy, et on me dit de faire comme elle. Alors, d'avoir l'œil charbonneux et terriblement intense, les cheveux glowy, mm-hmm, et une attitude fatale, ardente et déterminée, oui, le regard sombre tourné vers l'horizon, comme pour défier le dieu des océans, Poséidon. Voilà, alors moi je veux bien essayer de faire comme elle, hein, pas de souci, mais dans la vraie vie, je peux pas tout le temps regarder l'horizon non plus. Rien que là, par exemple, il faut que je puisse lire mon texte.
Vous avez d'autres pistes sinon pour se sentir moche?
Oui, alors plus que moche, je propose de se sentir hors compétition avec Madame Figaro toujours et les secrets beauté de Marie-Josée Croze. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être légèrement plus accessible qu'Ursula. Sauf que quand on lui demande son make-up de base, je lis bien de base, elle répond simple. En ce moment, c'est flash nude de Phil Orga. J'ajoute un nuage de poudre météorite compacte de Guerlain. Sur la bouche, je mets Bénéfiance, soin correcteur lèvres parfaite de Shiseido. Alors là, rien que les noms, c'est trop compliqué pour moi. On parle météorite, j'ai même eu peur. Puis la comédienne conclut, je termine par une touche de mascara 1944. Alors drôle d'idée d'appeler un mascara avec une des années les plus sombres de l'histoire, mais bon.
C'est
d'un point de vue marketing, c'est peut-être du génie. Au moins, enfin, en tout cas, on s'en rappelle.
C'est
quoi.
Sûr. Un dernier conseil qui, cette fois, peut nous aider quand même?
Ah, bah si vraiment on veut se mettre le cafard et perdre toute estime de soi, mm-hmm, on file de ce pas acheter le numéro L, spécial corps, avec 100 pages pour l'aimer.
Alors,
l'intérêt, ouais, l'intérêt de ces 100 pages, hein, c'est qu'on a déjà toutes pas mal de complexes. Mais après la lecture des 100 pages, eh ben, on en aura encore
c'est pire.
Plus.
Oui, merci. Alors, lesquels?
Alors, pour commencer, j'ai un complexe intellectuel. C'est-à-dire que je me dis que je dois être complètement demeurée parce que je ne comprends pas la moitié du vocabulaire. On me parle de beach body, de slow attitude, de posture power ou encore de pimper mon eau.
Ah oui, carrément.
Alors là, je me dis que ils sont vraiment trop branchés pour moi. Même 50 Cent à côté, c'est un petit joueur. Voilà, parce que pimper son eau, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement l'agrémenter avec autre chose. Par exemple, on peut faire le skinny sporty. Kézako, et ben il s'agit d'ajouter un piment rouge dans un litre d'eau.
Évidemment.
Alors, je n'ai pas essayé, hein, vu que ça ressemble vaguement à une technique très basique qui consiste à se déclencher une petite diarrhée et perdre quelques kilos par la force des choses. Sinon, pour la slow attitude, c'est rien de fou non plus. Ça consiste à vivre au ralenti et à ne rien manger ou pas grand-chose et faire du sport à jeun. Donc là, recomplexe, je me dis mince, je suis pas assez entraînée, moi je vais juste tomber dans les pommes. Enfin, pour ce qui concerne la posture power, c'est très simple. Si on est à la plage et qu'on veut un effet ventre plat, il faut adopter la position allongée sur le dos en appui sur les coudes et les avant-bras au sol. Ça oblige à contracter les abdos.
D'accord.
Cette posture met aussi en valeur les épaules et le décolleté et affine les cuisses. Et là, rebelote pour les complexes, car si je commence à penser à tout ça à la plage, j'oserais jamais aller me baigner, je pense. Ou alors, je vais devoir raser le sable et me déplacer en crabe éventuellement
atteindre l'eau. C'est pas très encourageant tout ça, Elsa.
Bah non, pas trop. Et au milieu de tout ça, évidemment, plein de photos de filles sublimes et de publicités où on sait pourtant qu'elles sont toutes retouchées, mais ça suffit pas de le savoir. Après, on se sent quand même un peu comme une merde, en fait. Et donc, pour la confiance en soi, on repassera. Voilà, mais quand même, j'ai un dernier espoir grâce à Tampax, qui fait une grosse campagne.
Oh là là, je m'attendais pas à entendre cette phrase un jour.
Moi non plus. Il fait une grosse une campagne publicitaire en ce moment, gros budget pour l'été, c'est normal. Avec ce slogan, faites confiance à votre tampon. Car en effet, je me dis que pour préserver la confiance en soi, si jamais par inadvertance vous tombez sur un de ces articles, peut-être le meilleur conseil est là, il faut s'en tamponner.
Voilà. Merci beaucoup, Elsa.
Avec plaisir.
Et justement, Bertrand Payet, c'est quelque chose contre lequel vous luttez, les anglicismes.
Parce que là, en fait, ça sert à rien. Voilà. La slow attitude, tout ça se dit très bien en français, sauf que ça vaut plus cher en anglais et ça fait savant. Mais on est vraiment dans l'injonction terrible pour les femmes.
C'est horrible, tout ça.
qu'on pousse les femmes dans un modèle qui est complètement absurde, qui est en plus un modèle étouffant, qui voudrait être unique pour toutes les femmes et qui gommerait la singularité. Enfin, je trouve ça monstrueux.
Voilà. Ça l'est.
Ouais. Ayez confiance en vous, c'est pas possible. Vous avez une petite astuce comme ça pour déclencher une confiance en soi?
Oui, faites tous les jours le bilan de votre journée et vous êtes l'avocat de votre journée. Soyez l'avocat de votre journée. C'est-à-dire que si je devais défendre ma journée, comme un avocat, qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans cette journée avant de s'endormir?
Ah, c'est une super bonne méthode. Il faut l'appliquer tous les jours. Merci beaucoup, Elsa Lévy. On va vous retrouver lundi. Et vous restez avec nous. Le Club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. D'ailleurs, on vous conseille une lecture de Steve qui dit que vous devriez lire Le mort et le survivant. Ça devrait vous plaire, voilà, pourquoi pas, on fait aussi des conseils de lecture ici. Sophie Massieu, vous nous emmenez dans le Berry ce matin, où ça exactement?
Nous irons au château de Valençay.
Ah très bien, j'adore les châteaux. Sophie Mounts, vous nous proposez de découvrir une huile berrichonne.
L'huile de noix.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
Bertrand Perrier, je vous propose de prendre une machine à remonter le temps en musique. Ouais, on a de gros moyens ici, on peut partir dans l'espace, mais dans le temps surtout. Savez-vous quelle chanson on écoutait à la radio à l'été 72, année de votre naissance?
Ah non, pas du tout, parce que je suis né en septembre, donc je n'ai pas pu l'entendre.
Ben voilà, elle était passée juste avant votre naissance.
Trop fragile, trop belle pour rester seule.
Oulala, on n'est pas du grand-chose. Je la connaissais pas, moi. Ringo, trop belle pour rester seule. En 1999, alors que vous entrez au barreau de Paris, vous preniez la robe pendant que d'autres... Zebda, évidemment. Et enfin, en 2016, quand sort le documentaire à voix haute, l'été, on écoutait ça. Bertrand Perrier, vous écoutez quoi comme musique?
Alors, je suis désolé de vous décevoir, je n'écoute pas trop ce que vous avez diffusé.
Ça, c'est l'éphéméride qui veut ça.
J'écoute de la chanson française, qu'on appelle chanson à texte. J'ai une passion, par exemple, pour une chanson qui s'appelle Juliette Noureddine, que personne n'entend parce qu'elle est chez elle, à Toulouse. Là, puis elle fait des chansons qui sont trop longues pour la radio, mais qui est extraordinaire.
Elle est formidable. Vous l'avez vue sur scène?
Pardon?
Vous l'avez vue sur scène?
Bien sûr, je l'ai vue sur scène, mais elle ne joue plus, elle me désespère. Je dis, Juliette, franchement, faites un nouvel album, faites une nouvelle scène, je serai là. Si je suis le seul, je serai là. Donc j'adore Juliette Noureddine, évidemment Barbara, bon voilà, j'ai bien aimé Juliette Armanet dans la dernière mouture de la chanson française. Et puis j'avoue, j'écoute de la musique classique.
Et que des femmes sinon?
Bah évidemment, des hommes qui chantent. Non, mais... c'est dérisoire.
Aucun intérêt. Pourquoi la musique nous parle ? C'est le titre de la conférence que vous tiendrez le 25 août avec le pianiste Nicolas Stavis dans le cadre des musicales de Sarlat. Donc ça vous parle ?
Ah oui, la musique nous parle parce qu'elle nous raconte des histoires, parce qu'elle nous raconte nos sentiments humains, bien sûr.
Et comme compositeur classique, c'est quoi vos compositeurs de chevet ?
C'est pour ça qu'on va partir dans le Berry. En fait, c'est Chopin.
Ah,
puisque qui dit Chopin dit George Sand, hein, puisque c'est une histoire d'amour qui a duré presque 10 ans. Et George Sand vivait dans le Berry. À Nohant, dans un très beau domaine qu'elle avait hérité de sa grand-mère, un peu au sud de Châteauroux. Et alors, à l'époque, on mettait deux jours,
oui.
en calèche. On changeait de calèche à Orléans pour aller là-bas. Et pendant cette liaison entre George Sand, la bonne dame du Berry, et Chopin, évidemment, ils vivaient l'été dans le Berry et l'hiver à Paris. Et donc, c'est dans le Berry que Chopin a composé ses plus grandes œuvres.
Eh ben on va pas mettre deux jours pour aller dans le Berry, Bertrand Perrier. On va en parler tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1. Il est 10h11 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier, et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Alors avant d'aller faire un petit tour dans le Berry, c'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu, et on part en Charente pour commencer.
Oui, pour une excursion dans notre histoire récente. Lise, si je vous dis Jarnac, vous pensez...
François Mitterrand.
Bravo! C'est sa ville natale, en effet, et la ville propose les jeudis de cet été, donc notamment aujourd'hui, une visite guidée pour suivre son parcours. On découvre l'église Saint-Pierre, où il a été baptisé, hein, c'est le jour aujourd'hui ou jamais, on parlait de baptême. Mais on découvre aussi sa maison natale, donc, ou encore un musée où sont exposés des cadeaux d'État. Vous savez, les présidents entre eux échangent beaucoup de cadeaux d'État, et puis aussi des maquettes, des grands travaux. On sait qu'il en a lancé plusieurs, hein, la Bibliothèque nationale qui porte son nom, mais aussi évidemment la pyramide du Louvre et d'autres que j'oublie. Ces visites commencent à 16h, il est inutile de réserver, il suffit d'être sur le parvis à l'heure dite, donc le parvis de l'église Saint-Pierre, 16h aujourd'hui. Un guide vous y attendra, vous prévoyez 5,50€ et puis c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Je profite de l'interstice entre deux petites brèves pour m'envoyer mon petit chat dans la gorge loin.
Mais du coup ça veut dire que c'est ouvert un 15 août, donc ça c'est une super idée pour de sortir aujourd'hui si vous ne savez pas quoi faire. Alors la page musicale de votre journal de la culture. Ah oui, dès que je dis musique, en fait, il y a musique qui part. C'est comme
c'est ça. C'est un automatisme.
On va dans le sud-ouest, Sophie.
Oui, le festival du jour se tient dans les Landes, à Luxey, précisément. Et il s'appelle Musique à la rue. Musique, M-U-S-I-C. Il ouvre ses portes aujourd'hui et de nombreux, très nombreux artistes sont annoncés jusqu'à samedi. La chanson française à l'honneur, hein, des groupes français, des chanteurs français, ça pourrait vous plaire, Bertrand Perrier, comme Les Ogres de Barbac, moi j'aime beaucoup, Debout sur le Zinc, Aurel San aussi. Alors là, en termes d'éloquence, on peut y retrouver quelque chose. Mais aussi Patti Smith demain.
Ah.
Et puis samedi, et là je sais qu'en diffusant cet extrait, on va faire plaisir à l'un de nos assistants, Alexandre, qu'on embrasse.
Oh, j'aimerais tant tout recommencer.
Je suis désolée, Lise.
Patrick.
Je sais. Bon, ça nous rappelle un peu, enfin, à moi, mon adolescence, à vous, votre enfance, non ? Vaguement, vite fait.
Oui, c'était autre chose.
C'est ça.
Voilà.
Bon, moi, je regrette juste.
Je préférais casser la voix, vous voyez.
Ouais, bah, moi aussi. Puis alors, j'aimais bien ce petit grain de voix cassé qu'il avait. Je sais pas pourquoi tous les artistes qui avaient une voix cassée, Renan Luce, Bruel et d'autres, qui avaient ce petit grain sur la voix comme ça, se sont acharnés à l'enlever.
Ben oui, je sais pas pourquoi.
C'est pénible. Bertrand Perrier, il faut les enlever, ces grains sur la voix, ou il faut
non,
les garder
tout,
quand
parce
on
que
les
la,
a
la voix fait partie de la personnalité. Et bien sûr, si on avait des voix uniformes, qu'on aurait des physiques uniformes, ça n'aurait aucun
Exactement.
Intérêt.
Exactement. Donc moi, ça me casse les pieds qu'ils enlèvent leurs grains sur la voix.
On est d'accord.
Ça suffit. Maintenant, gardez vos grains sur la voix et voilà.
C'était le coup de gueule de Sophie Massieu. Page de votre journal
mais
de la
non,
culture.
Mais non, attendez une petite seconde, quand même, que je vous rappelle que dans les Landes musicales à la rue, il y a un bel éclectisme et que ça se déroule jusqu'à samedi.
Elle va se fâcher,
je vous le rappelle.
Oh, j'ai énervé Sophie Massieu, pardon. Alors, la dernière page de votre culture, cette fois, on y est. Elle fait même pas peur. Elle est sous la table et franchement, elle est très sympa. Donc
beaucoup plus que moi.
Ouais.
On s'est répartis les rôles.
C'est ça. On va dans le nord-est de la France pour du théâtre.
C'est n'importe quoi ce journal et puis ça va continuer à être n'importe quoi. Je vous préviens, on s'installe.
Allons-y.
Du peuple de Bussan dans les Vosges. On devait y retrouver Jean-Yves Ruff. Eh oui.
Oui.
Et il y met en scène, ça reste vrai, la vie est un rêve de Calderón de la Barca. L'histoire de cette pièce espagnole du XVIIe siècle, c'est donc l'histoire d'un roi qui a eu un fils, mais qui l'enferme et qui cache son existence parce qu'un oracle lui a prédit que si jamais ce fils régnait, il deviendrait un tyran. Ce serait donc terrible. Bon, et voilà. Et Jean-Yves Ruff, on a un problème de téléphone. C'est le 15 août. Les téléphones sont en grève. C'est une misère. Donc, je ne pourrais pas lui demander pourquoi il a choisi de monter cette pièce, qui était pourtant une des questions brillantes que j'avais imaginées.
Bah oui, j'imagine
ce que
bien.
Je peux vous signaler, en tout cas, c'est que cette pièce mêle des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Et puis, le théâtre, c'est un théâtre fait de bois. Donc, il y avait forcément une atmosphère un petit peu particulière. En tout cas, il faut se précipiter parce que les représentations n'ont pas lieu tous les jours. Et vous pourrez voir le travail de Jean-Yves Ruff et lui poser vous-même vos questions que je n'aurais pas pu lui poser ce matin. Les représentations, c'est donc du jeudi au dimanche, c'est à 15h. C'est jusqu'au 7 septembre et les places coûtent entre 8 et 25 euros.
Merci beaucoup Sophie Massieu. Bertrand Perrier, est-ce que vous avez le temps de profiter de toutes ces programmations estivales, d'aller en festival, d'aller voir des pièces de théâtre? Non, puisque vous êtes à l'antenne d'LCI pendant tout l'été, c'est ça vous...
Non, il ne faut pas exagérer non plus. Je suis allé dans mon Berry chéri pour le festival Chopin, donc, dont je m'occupe au mois de juillet et au mois de juin. Et c'est formidable les festivals parce que c'est à la fois la culture dans des lieux incroyables, des châteaux, des halles, des cloîtres. Donc il y a déjà un côté patrimonial et puis il y a quelque chose d'assez festif et joyeux. C'est vraiment la culture en vacances. Il y a souvent un contact très facilité avec les artistes, on les voit, tout le monde est un peu délocalisé et je trouve ça formidable les festivals, et il faut vraiment que les collectivités locales soutiennent les festivals, c'est très important parce que c'est un maillage culturel et patrimonial très important.
Et on le voit tous les jours, il y en a des dizaines et des dizaines partout en France.
Oui,
avec
mais
notamment...
il y en a des dizaines qui meurent
et ça,
aussi.
Ça a des dizaines de bénévoles aussi, enfin, des gens qui donnent du temps et pour que ça existe. On va prendre la route pour le Berry, j'arrête pas d'en parler mais ça va finir par arriver. Je vous propose juste avant d'écouter Jermaine Jackson avec When the Rain Begins to Fall sur Europe 1.
Oh là là, on dit.
Mais oui, mais...
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
C'est Jermaine Jackson et je peux vous dire qu'il a enflammé le studio d'Europe 1. Dans un instant, nous irons faire un tour dans le Berry. A tout de suite.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Tous les ans, j'enlève des disques, j'en change. J'ai pris beaucoup de plaisir là à écouter.
Lise Pressac.
C'est n'importe quoi cette
émission. Merci Loïc à la réalisation, mais je suis pas sûre que celui-là, voilà, et on a eu très très mal aux oreilles avec ce Baby Shark qu'on va avoir en tête toute la journée. Il est 10h20, c'est la suite du Club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Mounz. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. Alors vous avez choisi de partir dans le Berry. Pourquoi est-ce que vous êtes si attaché à cette région ?
Alors je n'y ai aucune attache particulière, ni familiale.
Une attache de cœur.
C'est une attache de cœur. J'y suis allé vraiment pour Chopin en réalité. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'avais vu qu'il y avait un festival Chopin, donc évidemment dans le lieu où les œuvres de Chopin ont été composées, en tout cas la majorité d'entre elles. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais une semaine de vacances, je vais aller passer une semaine pour voir où étaient composées les œuvres que j'écoute et que je jouais d'ailleurs très mal, parce que j'ai joué du piano jusqu'à ce que les voisins se plaignent.
Et vous avez arrêté.
Et j'ai arrêté, bien sûr. Et donc je suis allé dans le Berry et j'ai découvert cette région via donc Chopin et puis Georges Sand évidemment. Et j'ai découvert cette vallée noire magnifique, une région qui est assez riche de traditions, de sorcellerie, de gastronomie. Enfin, c'est une très belle région, assez méconnue, mais vraiment qui mérite d'être découverte. Elle est très diverse aussi. Il y a les étangs de la Brenne, il y a le Bocage. Enfin, c'est très riche et c'est finalement à 3 heures de Paris.
Mais oui, c'est très près. Et Sophie Massieu, vous avez choisi vous d'entrer par une grande porte dans le Berry, celle d'un château.
Oui, parce que je sais bien que vous aimez les châteaux, Lise. Vous m'avez redit tout à l'heure. Alors nous arrivons en effet au château de Valençay, où nous attend sa directrice Sylvie Giroux. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors ce château, il a d'abord appartenu à une famille de la région, hein, les d'Estampes, qui l'ont bâti principalement à la Renaissance. Et puis ensuite Talleyrand, qu'on connaît bien, l'a acheté. Est-ce qu'on sent madame dans l'architecture ces propriétaires successifs, ces goûts successifs ?
Oui, absolument. Il y a une harmonie à Valençay, même si la première tour a été bâtie à partir de 1520. Et puis à la fin du 18e, eh bien, la seconde tour est arrivée par le Jean de Villemorien, donc je dirais le propriétaire entre la famille d'Étampes et Talleyrand. Et en effet, nous avons un corps de logis tout à fait harmonieux, comme si chaque architecte, en fait, chaque bâtisseur, eh bien, s'était inspiré, en tout cas, avait respecté le travail du précédent.
Donc, alors, à quoi il ressemble ? Donnez-le-nous à voir à la radio.
Oui, et c'est disons que le château de Valençay, il n'a pas une seule image en réalité, parce que quand vous entrez par, d'ailleurs c'est un domaine, hein, un domaine qui fait 53 hectares déjà, donc avec un parc, avec un ensemble de jardins, mais quand vous entrez dans le jardin français, qui est le premier jardin arrivant après la cour d'entrée, eh bien vous avez un château Renaissance. Ça, on est vraiment dans cette lignée des châteaux de la Loire. D'ailleurs, on fait partie des 22 grands sites, hein, du Val-de-Loire, puisqu'on est entre le Berry, le Val-de-Loire, la Sologne, la Touraine. Mais on est bien dans le Berry, absolument. Et donc, une fois que vous avez passé donc cette première vue cliché, on va dire, château de la Renaissance, château de la Loire, eh bien, vous entrez à l'intérieur. Et là, on est évidemment beaucoup plus au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Et quand on rentre dedans, eh bien, comme on a la chance d'avoir un château entièrement meublé grâce aux collections de Talleyrand, eh bien, nous sommes au 19e siècle. Donc, en fait, c'est une espèce de grand livre d'histoire quand on vient à Valençay entre le 16e et la fin du 19e siècle.
Ça fait vraiment envie. D'ailleurs, jusqu'au 11 novembre, vous proposez une exposition, hein, sur les bâtisseurs de l'édifice pour comprendre un peu comment tout ça a été fait.
Oui, tout à fait, parce que la région Centre-Val-de-Loire a fêté cette année les 500 ans de Renaissance par effectivement la mort de Léonard de Vinci, mais aussi c'était un peu l'occasion de reparler en fait des fastes de cette époque-là, mais aussi de les ancrer aujourd'hui. Et nous, ça nous a permis, parce qu'on travaille, étant donné toutes les collections qu'on a autour de Talleyrand, on travaille peu finalement sur la Renaissance, et donc ça a été l'occasion de travailler avec les archives départementales sur cette période et sur tous ces bâtisseurs, puisqu'en fait, effectivement, hein, c'est une grande dynastie, les Étampes, et on a retrouvé d'ailleurs aux archives nationales, eh bien, des portraits de certains des propriétaires. Voilà, et donc, oui, c'est à voir dans la galerie d'ailleurs d'Étampes, qui porte le nom des bâtisseurs.
Alors pardon, hein, je les ai appelés estampes, on ne prononce pas le S. En fait, les S, on ne les prononce pas dans le Berry. J'ai fait une faute devant un grand éloquent, notre invité Bertrand
Perrier.
Mais c'est
pas très grave.
Il faut pardonner.
Bon, c'est un château qui est vivant aussi. Hein, demain soir, notamment, ça sera la dernière de Jazz aux Chandelles. Comment ça va se dérouler ? Donc, c'est un concert dans le château qui est tout illuminé. Comment ça se passe ?
Oui, alors c'est une tradition à Valençay de faire des grandes soirées aux chandelles. Ah. Et donc, chaque année, en réalité, on offre aux visiteurs, en plus de cette visite totalement féerique, puisque vous avez 3000 bougies allumées, naturelles, donc dans tous les jardins, mais aussi sur la façade, etc., avec la plus grande précaution, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des pièces. Et donc, on visite, là, ça, on est pas du tout sur l'idée d'une visite guidée, on est vraiment plutôt dans un esprit, l'esprit d'un lieu qui vit aussi la nuit. Et on renouvelle les propositions artistiques. Et donc cette année, en effet, c'est autour du jazz, hein, en tout cas c'est un peu plus large que le jazz, puisque donc Laurent Dehors, qui est l'initiateur de tout ce travail artistique et musical, eh bien, a invité une grande chanteuse lyrique, qui est Ineke van Ingelgem, à revisiter les grands tubes, on va dire, de l'opéra. Mais comme ce sont des musiciens qui sont polyinstrumentistes et qui ont été nourris avec beaucoup d'influences musicales, eh bien, c'est un peu inclassable. Mais on commence par une déambulation à 21h, donc qui nous fait aller du jardin français à la cour d'honneur, au jardin de la Duchesse en terrasse, en musique, mais avec différentes interventions. Donc c'est plein de surprises, c'est plein de facéties, c'est plein de poésie. Et puis ensuite, à 22h15, et bien sur la grande pelouse, on a un chapiteau, et là, c'est la petite histoire de l'opéra, Opus 2. Donc moi, je vous invite, parce que non seulement...
Ça donne envie, ça donne très envie. Ouais. Envie, on va venir.
Et c'est vous pouvez, en même temps, visiter les trois niveaux, notamment aussi les cuisines, puisqu'on parle de gastronomie.
Ah,
et
bien, vous savez nous parler, Sylvie.
vous l'avez visité, Bertrand Perrier, ce château, déjà ?
Et non, pas du tout, mais ce que vous dites me rappelle vraiment ce qu'on fait aussi à Nohant, qui a une magnifique cuisine, en effet, parce que Georges Sand était une grande cuisinière et adorait faire la cuisine. Et elle avait l'une des plus modernes cuisines pour l'époque. Elle a eu l'un des premiers réchauds, enfin voilà. Et puis aussi, on a un très beau parc à Nohant, autour du château de Georges Sand, où on fait aussi des promenades aux chandelles musicales, avec des comédiens qui lisent des textes ou des lettres de Georges Sand dans les bosquets, dans les allées, etc. Et tout ça est délicieusement romantique.
Et on a recette de vin, hein, les vins de Valençay, évidemment. Hein,
les vins et les fromages, bien sûr.
C'est un chavignol.
Là, vous nous avez vraiment, vraiment, vraiment donné envie tous les deux d'aller dans le Berry. Ça nous fait donc au moins deux endroits à visiter. Pour ce qui est du château de Valençay, en tout cas, il est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Bon, sauf demain où c'est jusqu'à 18h, histoire d'avoir le temps de préparer un petit peu le concert. Merci beaucoup, Sylvie Giraud.
Merci.
On vous rejoint demain, alors.
Ah, avec plaisir. Et j'invite Bertrand Perrier à venir à Valençay, bien sûr. Moi, je vais très souvent à Nohant.
Alors,
voilà,
très bientôt.
Faites un échange.
Merci
beaucoup, Sylvie Giraud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice du château de Valençay. C'est donc dans l'Indre et donc dans le Berry plus largement. Dans un instant, Sophie Mounz va nous parler d'huile et de confiture, mais pas en même temps. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Ce matin, nous sommes en compagnie de l'avocat Bertrand Perrier. Bertrand Perrier, est-ce que vous êtes gourmand ?
Ah oui, absolument. Je ne dis que pour ça.
C'est clair.
Et alors, je ne pourrais manger que du sucre. C'est terrible.
C'est vrai ? Ah, vous êtes un sucré. Oui, moi, je suis un peu pareil.
Et j'adore ça. Je pense que je mourrais le sang caramélisé.
D'accord. Alors, confie. Quelle est votre recette préférée, votre plat préféré ou votre Madeleine de Proust culinaire?
Alors, si je puis le dire, on l'a évoqué hors antenne, mais je vais le dire, il y a un plat berrichon que j'aime beaucoup, qui est l'œuf à la couille d'âne.
Oui.
Alors, vous qui aimez les ânes, ça évoque immédiatement quelque chose. Alors, c'est un œuf poché qui est cuit dans le vin rouge et les échalotes, et c'est vraiment très bon, et la vue est assez évocatrice.
D'accord, on aura compris.
Il y a le pâté berrichon, qui est très bien.
Le pâté de Pâques, ouais, bien sûr, avec un œuf dessus, et puis le gâteau de pommes de terre aussi. Enfin, que des choses très légères, très vegan, enfin vraiment, on est tout à fait dans l'air du temps. Dans
sinon, on a les lentilles du Berry.
Et on a les
magnifique.
Lentilles,
mais là,
sûr.
Vous citez que du salé, Bertrand Perrier, en sucré, il y aurait quoi dans votre...
Ah il y a le douillon aux pommes, un truc absolument extraordinaire, une pomme qui baigne dans le caramel, enfin ça vous assure un diabète, mais alors, du meilleur effet.
Mais un diabète assumé.
Ah mais totalement.
Oui, toujours, il faut assumer son amour.
Cela étant dit, pour les artères, il y a des huiles.
Ah,
de
oui.
Bonnes huiles.
Les huiles essentielles.
Voilà. On va parler de l'huile de noix, et pour ce faire, je vous invite sans plus tarder à Dun-sur-Oron où nous rejoignons Ondine Caron. Bonjour Ondine.
Bonjour.
Nous sommes dans le Cher, de très jolis remparts médiévaux et ces Tuileries, une petite pépite que vous avez remis au goût du jour avec votre époux Samuel Dion. Deux carrières au départ qui n'avaient absolument rien à voir avec le métier d'oléiculteur. Vous étiez dans le domaine viticole en Champagne. Et puis il y a ce revirage, ce virage complet de vie, racontez-nous.
Exactement. En fait, on était typiquement jeunes, arrivés presque à 30 ans. Et puis, on avait des boulots super sympas, mais on voulait construire quelque chose pour nous. Et on est vraiment épicurien, on adore les bonnes choses. Mmh. On adore aussi les vieilles machines. Et on a visité l'huilerie et ça a été un projet de vie pour nous incroyable. Quand on a vu les machines du 19e siècle extraire de l'huile un produit qui est si cher au Berrichon, et avec le même procédé de fabrication depuis plus de 100 ans, on s'est dit « banco, on y va ». Ouais. Et depuis, on perpétue ça. Et là, nous avons fait presque un an de travaux pour remettre en état toutes les machines qui fonctionnaient un peu bon an, mal an. Et là, on a remis en état tout ça et on fabrique de l'huile toujours aussi bonne dans de conditions superbes.
Alors, de l'huile de noix, pour le coup, hein, mais pas que. Mais j'étais étonnée parce que je n'associais pas effectivement cette terre berrichonne à la noix. Je l'associe, venant de Belgique, plutôt au Périgord ou à Grenoble. On a des jolies cultures de noyers. Enfin, ce n'est pas la culture, mais on a des champs de noyers dans le pays berrichon.
Alors, il y a deux choses. Déjà, le Berry était une grande terre de noyers. Les noyers ont été arrachés à plusieurs reprises pendant les guerres, pendant les remembrements, mais ça se replante un petit peu.
D'accord.
Et puis surtout, Dun était pendant très longtemps la capitale de la noix gastronomique en Berry. Donc, il y avait vraiment un sens d'avoir une huilerie à Dun. Et la dernière chose, c'est que nous travaillons les noix sauvages. Nous sommes approvisionnés par les particuliers, donc des gens qui ont des noyers dans leur jardin, qui en ramassent au gré des balades en bordure de champs, et qui les cassent patiemment l'hiver au coin du feu et nous les apportent. Et nous, on fabrique ces tuiles à partir de ces noix qui sont gorgées d'arômes. Alors, c'est une difficulté parce que, avec les changements climatiques que nous pouvons voir, il y a des années où on a un peu moins de noix, c'est un peu plus compliqué. Mais les années normales, on a une huile extraordinaire et à profusion.
Mais c'est de la noix made in France, il faut le rappeler.
Exactement.
Hein. Le marché est quand même inondé de noix étrangères, alors qu'on a en France des productions exceptionnelles avec effectivement des huiles et des concentrés d'huile exceptionnels. Ondine Caron, comment ça se passe l'élaboration d'une huile artisanale? Moi, j'imagine la meule de pierre. Est-ce que c'est encore d'actualité?
Mais bien sûr, lorsque nous avons fait les travaux, que nous avons rénové l'atelier, nous avons demandé à refaire une meule de pierre parce que la nôtre fonctionnait depuis 1929. Oui. Donc elle était légèrement à bout de course. Donc ce sont des pierres de Bourgogne qui ont été extraites d'une carrière de la Nièvre. Et c'est une meule qui pèse 4 tonnes. Nous avons une dormante qui fait à peu près 3 tonnes et la roue 1 tonne. Donc, on va écraser les cerneaux de noix ou les noisettes. Mmh. Nous avons la même recette pour la noix, la noisette, le sésame et la cacahuète.
D'accord.
Donc, on écrase tout d'abord les fruits afin d'obtenir une pâte la plus fine possible, la plus homogène. Et cette pâte ensuite va être mise à torréfier dans un gros poêlon, une sorte de grosse marmite avec un agitateur au milieu qui permet en fait vraiment de toaster, de torréfier la pâte dans tous ses recoins. Et ensuite, cette pâte, quand l'huile commence à dégorger, on va la mettre dans des presses, des petites presses carrées. On va mettre la pâte dans ces presses, dans un tissu. On va l'envelopper, vraiment la mettre dans un cocon. Et ensuite, c'est une vieille pompe à eau du 19e qui va actionner un réseau hydraulique et qui monte à plus de 150 bars. Et là, l'huile est extraite.
Et là, vous avez la quintessence de la noix, évidemment.
Exactement.
Ce qui différencie, évidemment, votre manière de travailler, c'est que ce sont des procédés lents, très lents, et ça ne dénature pas effectivement la qualité de la noix. Il faut rappeler que dans les huiles industrielles, Lise, on travaille sur des procédés ultra rapides, ce sont des presses ultra rapides, s'il n'y a pas de temps en temps même des rajouts de petites choses et d'additifs. Mais donc ici, on est vraiment sur le produit pur, simple.
Oui, il faut. De toute façon, la saveur, ça prend du temps.
Voilà. Évidemment.
Donc, il faut se dire qu'on ne peut pas aller plus vite que les machines.
Non. Et ça prend combien de temps, du coup, Ondine?
Il faut compter 2 heures par pressé, en fait. Donc, le mécanisme tourne toute la journée. Donc, on lance, si vous voulez, des pâtes toute la journée. Mais si on prend de bout à bout jusqu'à la mise en cuve, il faut compter à peu près 2 heures. C'est très lent, mais ça fait un bon produit. D'autant que nous ne filtrons pas les huiles. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un produit extra, d'avoir des cerneaux extra. Et ensuite, on va mettre à décanter, parce que ce n'est pas terminé, on va mettre à décanter dans les cuves selon la température extérieure. Donc, plus il fait chaud et plus la décantation va être rapide. Donc, on va compter en ce moment à peu près 5-6 jours pour que les dépôts de noix se mettent au fond de la cuve et qu'on puisse faire un tirage au clair pour pouvoir mettre en bouteille et avoir vraiment un produit superbe.
Ce sont des huiles de noix que l'on doit garder au réfrigérateur ou pas forcément ?
Alors, avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers temps, effectivement, si vous ne la consommez pas extrêmement rapidement, mieux vaut la garder au réfrigérateur. D'accord. Mais le procédé de torréfaction permet une conservation un peu plus longue. Donc, ça va rancir dans les 6-8 mois, quoi, une fois que c'est ouvert.
Voilà, ça ne se garde pas indéfiniment.
Bertrand Perrier, vous connaissiez cette huile spécifique au
non,
berry ?
Mais je savais que le berry était une terre d'huile de noix, en effet, parce qu'il y a des gâteaux aux noix également qui sont servis régulièrement dans le berry. Ce que je trouve formidable dans ce que vous nous expliquez, c'est le rapport entre l'éloquence et la gastronomie. C'est fantastique, on y est. La saveur, elle est évoquée, le mode de production, et il y a une vraie éloquence de la gastronomie. Et je tiens les gastronomes pour d'immenses orateurs, et notamment, il y a quelque chose devant lequel je m'arrête systématiquement, parce que je trouve que ce sont vraiment des très beaux moments d'éloquence, c'est les cartes de restaurant. Voilà. Je m'arrête systématiquement devant les devantures de restaurant.
Ça dépend lesquelles.
Non, mais les vrais, pas ceux où on sert l'huile de noix, berrichonne, de l'huilerie d'Oron.
Voilà l'huilerie d'Oron. On peut aller la découvrir sur place, je l'imagine.
Tout à fait. Voilà. Nous avons une vue entre la boutique et l'atelier, donc vous pouvez voir tout le processus de fabrication.
On est à Dun-sous-Oron, dans le Cher. Grand
et quand
merci,
on n'est pas dans le Cher, Sophie, où est-ce qu'on peut se la procurer? Je vais y arriver.
Sur notre boutique en ligne.
La référence sur le site europe1.fr.
Merci beaucoup Ondine Caron d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et vous, auditeurs, quelles sont les saveurs de votre enfance, de votre région natale ou de votre région d'adoption? Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dans un instant, on va partir à la découverte de 3 nouvelles destinations. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invité, l'avocat Bertrand Perrier. Est-ce que vous voyagez beaucoup en dehors du Berry et des festivals ou est-ce que vous avez un lieu de vacances où vous retournez à chaque fois ou pas?
Et non, c'est le Berry parce que... quand j'étais petit, je passais mes vacances d'enfant dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui était aussi un endroit assez formidable. Là, j'ai mon ami Marc Bonnant, qu'on a évoqué tout à l'heure au tout début de l'émission, qui a une maison dans le Luberon, et donc je vais de temps en temps lui rendre visite, et puis le bassin d'Arcachon aussi. Il se trouve que j'ai un métier assez sédentaire, puisque je suis attaché aux deux juridictions parisiennes que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et donc, j'ai peu l'occasion d'être itinérant. Je ne vais pas comme ces avocats qui vont plaider à Tours, à Bordeaux ou à Marseille. Je n'ai pas le droit. Moi, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est-à-dire les deux juridictions de dernier recours en France. Je suis l'avocat du bout du bout. Après, il n'y a plus rien. Il y a Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est long et aléatoire. Oui. Donc, c'est vrai que je suis rattaché à deux juridictions qui sont à Paris. Et donc, je ne suis pas un avocat itinérant.
Bah oui, mais en tout cas, nous, on a trouvé des endroits pour que vous vous relaxiez. Vous nous proposez tous les jours, Sophie Massieu, de découvrir 3 lieux sur une même thématique. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous emmener dans 3 jardins. Donc.
Oui, mais alors de ceux qu'on caresse du bout des yeux et du bout du nez, pas du tout avec sa grosse pioche et ses gros sabots.
Très bien.
Puisqu'on ne va pas parler de jardinage, hein, mais au contraire, on part à la découverte de 3 jardins botaniques. Alors, on commence dans les Alpes-Maritimes, à Aize. Le jardin exotique qui s'y trouve a été implanté sur le site d'une ex-forteresse médiévale. Et donc, Lise,
Il est en hauteur, j'imagine.
Bravo, vous êtes super forte. Il est à 429 mètres au-dessus de la Méditerranée, ce qui donne un très beau point de vue. On a un panorama visuel du mont de l'Esterel au golfe de Saint-Tropez, j'imagine, dans les meilleurs jours. On peut suivre différents parcours, thématiques et artistiques, pour découvrir en fait 2 parties assez différentes. Au sud, des plantes plutôt issues des régions désertiques, et puis au nord, des plantes méditerranéennes et des cascades. Bref, un univers un petit peu plus humide, un petit peu plus frais. Et d'ailleurs, un nouvel espace a été inauguré, dit espace zen. Il a été aménagé avec des cascades, des bancs, des petits brumisateurs. Des brumisateurs, on a des pas de grosses douches. Bref, tout ce qu'il faut pour s'offrir une pause détente à la fraîche. De juillet à septembre, le jardin, il est ouvert de 9h à 19h30 avec un prix d'entrée qui est fixé
à 6 euros. Et puis les enfants de moins de 12 ans, donc vous Lise, vous
êtes là. Merci, c'est gentil. Autre univers cette fois dans les Côtes d'Armor.
Ah là là, des bambous, des érables du Japon, des fougères de Madère.
Ah,
rien
oui.
que tous ces noms nous font voyager. Hein.
Oui.
On trouve un grand nombre d'espèces de plantes issues des régions à climat doux dans ce grand jardin du Kestelik. Là aussi, le nom est bien bretonnant
oui.
et nous fait voyager. 1800 espèces au moins issues des 5 continents. Elles sont réparties sur 7 hectares et différentes zones permettent d'apprécier les végétaux qui sont classés par type de climat et par région où ils s'épanouissent classiquement le mieux. La pierre, bien sûr, c'est du granit rose hein, qui règne en maître dans cette région. Alors, le jardin botanique du Kestelik, il se trouve à Plouguiel. Il est en ce moment ouvert tous les jours, sauf le samedi. C'est étrange de ne pas ouvrir un samedi, mais c'est comme ça. De 14h à 18h, l'entrée est là encore payante à 8,50 euros pour les adultes.
Alors, retour en Île-de-France pour notre dernière escale botanique.
Eh bien oui, parce que nous ne sommes pas tous partis en vacances.
Ben non, hein, vous l'aurez compris.
Et puis parce que ça peut aussi, pourquoi pas, nous donner des idées de balade pour le mois de septembre, pour vous, Bertrand Perrier, qui êtes attaché à Paris, comme vous venez de nous le dire, attaché par le travail. Et puis, on va parfois très très loin pour chercher des trésors, alors que parfois, il y en a là, pile poil sous nos yeux, qu'on n'a pas vu. Je vous propose donc de parcourir les allées du jardin des serres d'Auteuil. Elles sont au nombre de 5. Alors, certaines ont des noms un peu poétiques. Je vous ai passé les serres d'Est et d'Ouest, je trouvais ça moins rigolo, mais
oui.
il y en a une des palmiers, une autre des azalées. Ça fait quand même plus envie. 500 espèces de plantes, en tout cas, se côtoient dans ces 1368 mètres carrés. Et parmi les choses remarquables, moi j'aime bien les grands arbres, et bien, il y a un palmier qui mesure 16 mètres de haut.
Ah oui,
ah oui.
C'est très précis, hein, toutes ces données.
Parce que les arbres hauts, je trouve que ça, vous voyez, ça donne une idée de leur histoire, de leur... voilà.
C'est vrai.
J'aime bien. Et puis on peut y admirer aussi divers types d'oiseaux. Ces jardins, ils se trouvent dans le bois de Boulogne, tout près des cours de Roland-Garros. L'entrée est gratuite cette fois-ci. Les horaires varient selon les saisons, donc je vous les épargne, je ne vous fais pas tous les horaires de toutes les saisons. Il y a des visites guidées gratuites qui sont possibles, qui sont organisées dans ce cas-là par la mairie de Paris, parce que c'est un jardin qui appartient.
Ah bah c'est chouette. Vous prenez quelle région, Bertrand Perrier ?
Alors, moi, je vais prendre le jardin des serres d'Auteuil, parce que je le connais bien.
Oui.
Il est absolument magnifique, il a été complètement refait, puisqu'il y a un nouveau cours à Roland-Garros
ah oui.
qui est dans le site historique des serres d'Auteuil, mais bien évidemment, les serres classées ont été maintenues,
bien
et
sûr.
C'est absolument magnifique. Ils ont refait les maisons en meulière, le cours est très beau d'ailleurs, en fond
oui,
de parcelle,
il est très, très beau,
absolument magnifique. Et je trouve que ce jardin des serres d'Auteuil, où il y avait d'ailleurs un festival de musique qui a été délocalisé dans un autre jardin absolument magnifique, je me permets d'ajouter,
allez-y.
Qui est le jardin de Bagatelle,
ah, c'est
avec
vrai, juste
son
à côté.
Orangerie et sa roseraie absolument sublime. Et donc il y a un festival Chopin, mais qui est au mois de...
Oui, c'est une obsession.
Mais il n'y a pas que ça. Car
le Berry et Chopin.
Un autre festival qui a lieu en fin août et début septembre dans l'Orangerie du parc de Bagatelle. Et qui est aussi un très 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 beau jardin où on a une vue absolument magnifique sur la région parisienne
ouais.
et une roseraie sublimissime.
Bagatelle, c'est incroyable, vraiment. Dans les jardins d'ailleurs, que vous soyez à Bagatelle ou ailleurs, si on croise des moustiques, Sophie, on peut lutter contre avec son téléphone.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Mais oui, parce que l'application du jour, en fait, c'est une espèce d'anti-moustique sonore.
C'est très désagréable.
Elle s'appelle Anti-Mosquito
oui.
et elle émet des sons de basse fréquence.
Moi,
je
m'en vais tout de suite quand j'entends ça.
qui sont supposés éloigner ces insectes. Alors, l'application est gratuite, vous ne perdez pas grand-chose à essayer. Je
ne
garantis pas que ce soit hyper efficace. Alors, en tout cas, moi, j'ai trouvé l'idée plutôt amusante. Si vous l'avez essayé et que vous voulez nous dire si ça marche ou si ça ne marche pas, n'hésitez pas à nous faire un petit message Twitter, hashtag Europe 1. On recule devant rien, on est prêt à tout lire, nous.
Oui, c'est ça. Bah, je vous avoue que moi, je l'avais déjà testé, c'était pas hyper concluant.
C'est
mais...
vrai, ça marche pas des masses
bah...
Je sais pas, moi j'ai trouvé l'idée rigolote,
ouais,
j'avoue que je l'ai pas testé.
Un peu, mais je crois, en fait, pour les personnes comme moi qui sont des vrais aimants à moustiques, je crois qu'il faut quelque chose d'encore plus puissant que ça. Hein.
Ah, mais je vais vous emmener avec moi, alors.
Bah, oui, voilà, je suis le meilleur des anti-moustiques, emmenez-moi
ah.
en vacances. Vous retrouvez toutes les références des contenus dont on vous parle évidemment dans le club de l'été sur le site Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et dans quelques minutes, Sophie Mounce, on continue notre semaine consacrée aux confitures.
Mmh.
Et avant ça, on écoute Angèle avec Balance ton quoi sur Europe 1.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en... Moi
passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire un mmh. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi, balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, aller te faire un mmh. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, aller te faire un mmh. Moi je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi, balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera.
C'était Angèle sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
9h-11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Moi j'adore la musique, mais je chante faux, mais d'une fausseté, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais dans ma tête c'est juste, mais ça sort très faux.
Pour moi la meilleure chose à faire c'est de chanter franchement.
On nous parle au solidaire, à le mal qu'on peut nous faire.
C'est inaudible, ça fait froid dans le dos, c'est non.
Lise Pressac.
C'est d'une lucidité déconcertante. Bon bah clairement je passerai pas d'audition musicale, vous l'aurez compris, mais non mais c'est terrible Bertrand Perrier, parce que
dans ma tête ça sonne juste.
Mais oui, mais c'est vrai.
Ça c'est une pépite ça.
Et c'est le jeu préféré de mes amis, de me faire chanter quelque chose pour essayer de reconnaître. En général on reconnaît jamais. Voilà. Mais c'est bien d'avoir de la lucidité sur soi-même aussi.
Et l'autodérision.
Ah oui, surtout. Le Club de l'été se poursuit avec notre invité l'avocat Bertrand Perrier. Alors on a compris que vous aimiez manger. Est-ce que vous cuisinez aussi?
Non pas du tout. Je suis totalement nul. Mes amis m'offrent des livres de cuisine comme une sorte d'autosuggestion, mais ça marche absolument pas.
Bah, en même temps, moi j'ai énormément de livres de cuisine chez moi parce que j'adore l'objet et je fais pas les recettes parce que je suis souvent arrêtée par l'ingrédient qui manque, donc je le referme et j'arrête tout de suite.
Mais ça, objectivement, c'est pas du tout la bonne excuse. En fait, c'est juste que j'avais pas envie de le faire.
J'avoue, non, mais en fait, je préfère qu'on me montre les choses. Et vous voyez, j'ai Sophie Muntz en studio. Alors déjà, quand vous cherchez un art, quelqu'un qui parle très bien des produits, écoutez son ode à la tomate de
la semaine dernière. Ça, c'est un collector.
C'est un pépite d'éloquence.
Je ne vais pas vous faire les accents aujourd'hui.
Non,
mais
pas d'accent aujourd'hui. Mais on continue
pour
une semaine.
Pour cette nouvelle saga de nos confitures, je me suis arrêtée sur deux fruits stars de l'été, en tout cas chez les Français. J'ai nommé les pêches et les abricots.
Il y en a une ou il y en a plusieurs?
Il y en a beaucoup en ce moment, hein, les vergers français en regorgent. Mais je voudrais justement rappeler quelque chose. Il faut savoir que la filière arboricole, dans sa globalité, souffre sous nos latitudes, entre les aléas climatiques et la concurrence étrangère. Ce n'est pas facile. Alors en tant que consommateur, on a une petite pierre à apporter à l'édifice, c'est-à-dire se dire, on pourrait peut-être acheter du français, c'est pas mal, hein. Surtout qu'on a quand même de belles régions productrices, entre le Roussillon pour nos abricots, nos beaux abricots rouges du Roussillon, ou nos pêches, il y en a vraiment une large variété. Donc, s'il vous plaît, on consomme du
local. Français.
Du
local.
Fume, c'est du belge.
Non, mais c'est important de rappeler quand même cette base pour donner du sens. On s'y met à la confiture.
Mais allons-y. Alors moi, je sors ma bassine parce que j'ai bien retenu la leçon.
La bassine en cuivre, voilà. Est-ce que vous êtes souvenus? Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une bonne confiture, Lise?
Il nous faut du sucre, il nous faut des fruits,
du citron. Voilà.
Et de la pectine.
Oui, mais là, ce ne sera pas nécessaire. Ah, voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un petit mix. Allons-y. 600 grammes de pêche. Alors là, vous prenez des blanches, des jaunes. Prenez ce que vous avez envie.
Des plates ou des rondes?
Ça n'a pas d'importance, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de jus. Tiens, pour la petite anecdote, vous savez que les pêches plates ont été imaginées par des scientifiques, l'idée étant de permettre des transports plus facile et de gagner des gains. Oui, non, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais en tout cas, il y a eu quand même l'idée d'en faire des choses plus pratiques pour le commerce. Cela étant dit, bon, 600 grammes de pêche, 600 grammes d'abricots made in
France.
Bravo. 750 grammes de sucre.
Oui.
D'accord. Et le jus d'un citron. Oui. Day one, jour 1.
Oui. Citron bio, vous avez oublié, Sophie.
On coupe, on lave, on détaille en petits morceaux. Dans une bassine, on met nos fruits, notre sucre, 750 grammes, et notre jus de citron.
Oui.
On ferme la boîte, un petit film plastique, quoique le plastique vaut mieux éviter. On passe une belle journée du 15 août. Hein. Demain matin, on se lève, qu'est-ce qu'on fait?
On allume Europe 1.
Bien sûr.
Mais oui,
c'est important. On met Europe 1.
On prend ce confisage qu'on va mettre donc en cuisson. J'ai envie de vous dire que là, on va jouer un petit peu l'originalité. On va rajouter à notre préparation des épices.
Ah,
ce qui marche très très bien. Ça peut être de la cannelle, ça peut être de la badiane. Si vous êtes dans le sud là en ce moment, un peu de lavande bio, vous mettez de la lavande, ça va un petit peu. Ça va donner du goût, aromatiser tout cela. On démarre la cuisson à feu doux.
Oui.
Le sucre va se dissoudre. Lorsque vous voyez tout cela bien dissous, vous allez monter à l'ébullition entre 10 et 15 minutes. On mélange un petit peu, on attend que ça se fasse.
Oui.
On écoute Europe 1, la voix délicieuse de Lise. La verve de Maître Perrier,
oui.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
C'est très important pour le goût de la confiture après.
C'est
s'il vous plaît, voilà.
Lorsque vous voyez que ça commence à gélifier, vous faites la petite thèse de la coupelle, hein, je le rappelle. Vous mettez sur une petite coupelle sous tasse. On retourne, si ça colle.
C'est que c'est bon.
C'est gélifié, sinon le thermomètre. Vous mettez tout cela en bocal, vous laissez un petit peu refroidir, vous mettez ça en bocal. Les bocaux, vous les retournez, ça va enlever l'air dans le bocal. Et votre confiture est faite.
Oh, magnifique, magnifique. Ouais.
Ah, c'est formidable.
Simple, c'est toujours plus compliqué quand on essaye. Hein.
Non, il faut essayer. Et puis s'il y a des ratés, c'est pas grave.
Mais
c'est une partie
il faut se lancer.
Du plaisir.
Il faut se lancer absolument. Bertrand Perrier, merci beaucoup d'avoir passé ces deux heures avec nous.
C'était un plaisir.
Je rappelle votre longue actualité. Vous avez publié en juin un petit manuel pour grand oral avec des cours et des exercices pour réussir la nouvelle épreuve du bac. C'est chez Magnard. À la rentrée, sort en poche votre livre La parole est un sport de combat. On vous retrouve également à la rentrée sur l'antenne d'LCI où vous officiez aussi cet été. Et on vous verra aussi dans le film Banlieusard de Kery James qui sortira le 12 octobre sur Netflix. Il a d'ailleurs sorti un titre avec Aurel San pour annoncer ce projet.
Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal Plus, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario.
Vous y jouez votre rôle, plus ou moins.
en réalité, il y a un concours d'éloquence à un moment.
Voilà.
Et donc je l'organise et je le préside. C'est un tout petit rôle.
Kery James qui faisait déjà partie du jury d'Eloquentia.
Vous
vous êtes rencontrés, que vous êtes sur ce projet. Et évidemment, concernant Eloquentia, les programmes en banlieue pour les étudiants reprennent aussi à la rentrée.
Absolument, ça reprend. Vous pouvez contacter Eloquentia si vous voulez que des animateurs éloquentiaires viennent dans votre collège, dans votre lycée.
Et comment on fait?
On se voit sur le site d'Eloquentia. Et vraiment, n'hésitez pas, il y a des programmes de formation. Et en effet, en Seine-Saint-Denis, on reprendra au mois de janvier.
Génial. Merci beaucoup Bertrand
Merci
Perrier. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui en ce 15 août. Sophie Massieu, Sophie Mounz, on se retrouve demain avec notre invité, le metteur en scène Jean-Michel Ribes. Nous irons faire un tour en Gascogne. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.